Juste pour dire, Emmanuel a commencé par un petit exercice pratique, vu qu'il est arrivé à 8h, entre 8h moins 10 et 8h moins 5. Donc, merci d'être arrivé à l'heure. Il y avait des bouchons sur la route. Donc, il est venu en voiture directement depuis la région de Strasbourg. Ouais. Je vous invite à prier pour remettre ce temps de séminaire, de réflexion, de partage sur le combat spirituel. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous pouvons prendre, que nous pouvons mettre à part pour t'écouter. Nous voulons te demander de faire silence en nos cœurs, de nous rendre disponibles à t'écouter, à recevoir ce que tu veux nous apporter ce soir. Nous voulons te remettre aussi Emmanuel, que tu le bénisses, que tu le remplisses profondément de ton esprit, que tu le renouvelles et qu'il puisse vraiment parler de ta part à nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Voilà, je te laisse sans autre la place. Si tu veux peut-être commencer par te présenter. Oui.
Merci Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement pour ce week-end un peu spécial autour d'un thème qui, je l'espère, enfin, un thème intéressant. Est-ce qu'il sera amené de manière intéressante? Ça, c'est une autre question. Qui ne me connaît pas? Procédons plutôt ainsi. Quelques-uns? Ok. Alors, je m'appelle Emmanuel Menlein, je suis alsacien. Nous avons des origines dans la famille suisse-almanique. Pardon? Non, c'est pas un péché. Non. Surtout que ça remonte à longtemps. Je crois que c'était en 1700 quelque chose. J'ai mon oncle qui a fait l'arbre généalogique. Ils ont immigré en Alsace. C'était en 1700, je ne sais plus combien. Je suis marié. Nous avons 4 enfants, l'aîné qui a 21 ans, le dernier qui a 8 ans. Nous habitons à côté de Strasbourg, un petit village alsacien, après avoir habité pendant de nombreuses années à Del, dans le territoire de Belfort. J'exerce un ministère d'évangéliste, conférencier, itinérant, en France et en francophonie, principalement en France, mais aussi un peu en Suisse, en Belgique, et puis aussi dans toute la francophonie, ou une grande partie de la francophonie, entre autres tout ce qui concerne l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, la région des Grandes Antilles aussi. Depuis de nombreuses années maintenant, ça fait pratiquement 20 ans que je travaille avec une association qui s'appelle France Évangélisation, une association dont l'objectif est d'être au service des églises, essentiellement pour 3 choses. D'abord pour tout ce qui concerne l'annonce de l'Évangile, ensuite pour ce qui concerne la formation, et puis aussi pour les aider à penser, à se structurer. Nous sommes actuellement 8 ou 9 évangélistes à plein temps, d'autres sont à mi-temps au sein de notre association, ce qui nous réjouit beaucoup. Pendant de nombreuses années, nous n'étions que quelques-uns, voire même à un moment donné, je me suis retrouvé seul. On s'est demandé si on n'allait pas mettre la clé sous la porte, mais Dieu merci, une nouvelle génération s'est levée. Donc pour ma part, il y a plusieurs axes où j'ai plusieurs cordes à mon arc. Il y a dans mon ministère, il y a ce qui concerne la formation, l'enseignement, comme nous allons pouvoir le vivre ce week-end, et puis d'autres choses encore peut-être que je vous parlerai au fur et à mesure. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour ce week-end aborder avec vous un thème qui s'intitule « Le combat spirituel ». Donc c'est un thème que je traite depuis quelques années. Il y a 5 ans de cela, j'ai sorti un premier ouvrage sur la question des médiums, des guérisseurs, etc. Et puis, il y a quelques mois de cela, j'ai sorti un second ouvrage sur la question du combat spirituel. Et donc, c'est à partir de cet ouvrage-là, avec d'autres petites choses que je vous donnerai au fur et à mesure, en particulier dimanche matin aussi, eh bien, que j'aimerais aborder avec vous pendant ce week-end. Voilà, donc nous sommes ensemble ce soir, nous sommes ensemble demain matin, et puis demain soir, et dimanche matin encore. En fonction du temps que j'aurai, on verra peut-être un module que je n'avais pas prévu d'aborder, mais peut-être, comme j'ai un petit peu plus de temps, peut-être que demain matin ou demain soir, on verra, je pense que ce serait plutôt le matin, on verra peut-être comment faire pour accompagner une personne sous influence occulte. Voilà, ça pourrait être quelque chose qui certainement pourrait intéresser les uns et les autres. Donc, du coup, je vais peut-être ôter certains aspects que j'avais prévus et rajouter cela. Quelques mots d'introduction par rapport à notre sujet. Qu'est-ce que le combat spirituel ? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot ? Vous savez que c'est une expression qu'on retrouve essentiellement dans le mouvement protestant évangélique. Et c'est difficile de donner une définition. Pourquoi ? Parce que, d'abord, vous ne trouvez pas le terme dans la Bible, combat spirituel. Vous trouvez une certaine réalité spirituelle qui est là, mais vous ne trouvez pas ce terme de combat spirituel. Ensuite, parce que dans le mouvement évangélique, vous avez toutes sortes de points de vue sur le sujet. Et vous avez toutes sortes d'écoles qui existent. Par conséquent, c'est un petit peu difficile de donner une définition. Néanmoins, je vous en propose quand même une qui n'est pas biblique, mais une définition qui part davantage de ce que les uns et les autres peuvent vivre. Habituellement, lorsqu'on parle du combat spirituel, on entend plutôt l'opposition que le chrétien rencontre par rapport aux attaques des ténèbres. Donc ça, c'est, si vous voulez, une définition voilà, que je vous propose, hein, l'opposition que le chrétien va rencontrer face aux attaques des ténèbres. Alors ça mérite, bien sûr, des explications. À partir du moment où vous convertissez, où une personne accepte le Christ dans sa vie, il y a un grand changement qui va se produire. Cette personne passe des ténèbres à la lumière, ou alors de la mort à la vie. Elle passe de l'enfer au paradis. Elle était perdue, maintenant elle est sauvée. Avant, elle était dans les mains de Satan, même si elle ne croyait pas en l'existence de Satan et qu'elle n'a jamais pratiqué d'occultisme ou que sais-je, maintenant elle est dans les mains du Christ. Donc d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose de fort qui se passe. La personne passe dans le camp du Seigneur. Et à partir de ce moment-là, il y a une opposition qui va se manifester. Et cette opposition va pouvoir prendre différentes formes. Encore dernièrement, quelqu'un qui s'est converti m'a dit que depuis qu'il ou elle, je ne sais plus si c'était un monsieur ou une dame, depuis qu'il ou elle s'est converti, elle a vécu, ou il a vécu, il vit des semaines qui sont très difficiles. Il n'a jamais vécu des combats comme ça dans sa vie. Pourquoi ? Parce que la lumière du Christ est venue dans sa vie. Et à partir du moment où la lumière du Christ vient dans notre vie, le Seigneur fait aussi le ménage dans notre existence. Nous ne sommes pas tous les mêmes à ce niveau-là. Il y en a certains où ça va se passer relativement facilement parce qu'ils ont toujours eu une certaine éthique de vie ou parce qu'ils sont nés dans un milieu évangélique ou parce qu'ils ont toujours entendu plus ou moins parler du Seigneur. Mais pour d'autres, pour ceux qui reviennent de loin, ceux qui ont touché à l'occultisme, ceux qui ont été abusés, ceux qui ont été violés, ceux qui croyaient, qui pensaient, qui faisaient n'importe quoi, qui étaient dans toutes sortes d'addictions, ce sont des gens qui reviennent, des personnes qui reviennent de loin. Alors parfois, il arrive que le Seigneur délivre instantanément, et Dieu merci. Mais en même temps, Dieu, ce n'est pas Harry Potter, ou plutôt, il n'agit pas qu'Harry Potter. Il est plus fort, il est mieux qu'Harry Potter, mais il agit surtout différemment de tout ce qui est magie et magicien. Et par conséquent, eh bien, la lumière vient et Dieu travaille dans la vie de la personne. Ce qui fait que certains, lorsqu'ils trouvent la foi ou sont en train de trouver la foi, vont vous dire, depuis que je connais le Seigneur, je vis une situation où je vis des semaines difficiles. Un de mes amis que j'avais eu l'occasion d'amener à la foi en Christ m'a dit, suite à sa conversion, ou plutôt dans les mois qui ont suivi, j'ai vécu les 2 mois les plus difficiles de ma vie. Justement parce que la lumière du Seigneur avait fait irruption dans sa vie et parce que il y a des choses qui ont dû changer. Il a mis le doigt sur des péchés, il a mis le doigt sur des liens et par conséquent, il y a un combat qui se joue à l'intérieur même de la personne. Donc, les éléments déclencheurs sont multiples. Autre point, qui toujours dans cette partie introductive, qui me paraît important, à savoir que la conversion ne met pas un terme à tous nos problèmes, à tous nos liens, à tous nos dysfonctionnements. C'est quelque chose qui, je pense, est évident pour les uns et les autres. Néanmoins, je le dis et je le redis quand même, parce que parfois, dans le milieu évangélique, on a présenté la conversion comme la fin de toute chose. La conversion est une étape qui est importante, mais c'est une étape parmi d'autres étapes. Dieu veut nous faire vivre plein d'autres étapes dans notre cheminement spirituel. La conversion, bien sûr, nous fait passer de la mort à la vie. Nous rentrons dans le royaume de Dieu, mais quand on rentre dans le royaume de Dieu, c'est comme lorsqu'on est sur terre, on a tout à apprendre. Un petit enfant qui naît a tout à découvrir, a tout à apprendre, a tout à vivre. Et au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, la conversion n'est pas une fin en soi. Et parfois, dans nos milieux évangéliques, elle a été présentée comme une fin en soi, comme l'aboutissement de toute chose. Non, ce n'est pas l'aboutissement de toute chose. Tu viens juste de commencer, quoi. Voilà ce qu'il faut se dire. Je viens juste de commencer. Je suis sur la ligne là du départ. Et je suis maintenant en train d'entamer ma course, ma vie avec le Seigneur et ma vie tout court. Donc ça, c'est important de mettre ça dans notre esprit. Pourquoi ? Parce que quand on se convertit, Dieu ne va pas régler tous nos problèmes comme par magie. Bien sûr, il va nous aider. Certains problèmes vont se régler immédiatement, les péchés vont être pardonnés, il y a des liens qui vont être brisés, mais nous restons le même. Nous sommes là avec notre caractère, nous sommes le même avec nos pensées, nous avons toujours le même visage, même si celui-ci sera illuminé et qu'on verra qu'il y a la présence de l'Esprit qui est en nous. Le Seigneur travaille et il y a des choses ou du travail à faire. Alors ce combat spirituel, j'insiste là-dessus, est un combat à plusieurs niveaux. C'est un combat d'abord, comme je l'ai écrit dans mon livre, un combat contre le péché, ou si vous voulez, un combat contre nous-mêmes. Non pas que nous allons nous prendre en grippe, non pas que nous sommes en guerre contre nous-mêmes et que nous allons commencer à nous haïr ou à tel point qu'on risque de devenir schizophrène, absolument pas. Mais quand je dis que c'est un combat contre nous-mêmes ou contre le péché, c'est un combat contre notre propre nature. Pardonnés, nous le sommes, nous restons fragiles. Et nous pouvons être, et nous le sommes régulièrement, nous sommes tentés. Par conséquent, il y a bien des occasions de chute qui se présentent. Donc le premier ennemi, et je mettrai ennemi entre parenthèses et en tout petit, c'est d'abord nous-mêmes ou plutôt notre propre nature. Nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, nous sommes au Seigneur, le Saint-Esprit est en nous, Dieu nous parle, Dieu nous donne des dons, Dieu nous utilise, Dieu nous bénit. Nous restons cependant des êtres humains avec tout ce que cela représente. Donc c'est déjà un combat contre notre propre nature, et si vous lisez les Épîtres, vous allez voir que le gros du combat spirituel est contre notre propre nature. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à bien des reprises, crucifiez donc, faites mourir tous ces comportements, que ce soit l'animosité, que ce soit la jalousie, que ce soit la calomnie, que ce soit l'envie, que ce soit l'orgueil, bref, toutes ces choses-là, vous étiez cela autrefois, vous étiez homosexuel, vous étiez ceci, vous étiez cela, maintenant vous n'êtes plus ça, vous êtes quelqu'un de nouveau. Encore faut-il réaliser cela et encore faut-il vivre cette réalité, en prendre conscience. Et là, il y a un combat qui est un combat de toute une vie. L'année dernière, j'étais avec mon mentor et mon cher ami collègue Alain Stamp. Nous étions au Mali pour un forum des évangélistes et pour de l'évangélisation. Et nous avons été accueillis, entre autres, par un pasteur pentecôtiste des ADD, qui était responsable de l'évangélisation de sa dénomination pour le pays. Et le matin, il venait nous chercher à l'hôtel et puis ensuite il nous emmenait sur notre lieu et on avait environ chaque fois une heure de route, donc on avait le temps de discuter. Et quand on était en train de discuter, voilà, on parlait un petit peu à cœur ouvert de non seulement des choses positives, mais aussi des problèmes, des combats que nous avions parfois dans notre ministère et dans notre vie personnelle. Et à un moment donné, il nous relate une anecdote où il avait été invité dans un autre pays africain pour prêcher. Il y avait des réunions, tout se passait bien, c'était des temps bénis qui vivaient avec les participants. Et puis le soir, on l'amenait à l'hôtel. Et un soir, alors qu'il était à l'hôtel, voilà que quelqu'un frappe à la porte. Alors, je lui dis, tiens, qui c'est ? Alors, au début, il dit, il était prévu que personne ne vienne me voir. Et puis finalement, après que cette personne ait insisté, il ouvre la porte. Et derrière la porte, il y avait une belle jeune femme qui était là et qui se proposait d'être son oreiller pour la nuit. Autrement dit, de passer la nuit avec lui. Et elle lui dit, ah, mais de toute façon, ta femme est vieille, elle est loin d'ici, personne ne saura rien. Alors, quelques secondes, il était pantois, là. Il savait ce qu'il devait faire, mais bon, il y a eu un petit combat qui s'est joué en lui, qui a duré un certain temps. Et immédiatement, il a dit, écoute, on arrête tout, là. Enfin, plutôt, on commence rien du tout. Hein? J'aime mon épouse. J'aime le Seigneur. Tu pars et tu me laisses tranquille. Mais vous voyez, dans un moment où tout allait bien pour lui, où il était béni, où il avait du plaisir à être là-bas, il avait eu du plaisir aussi à être logé dans un endroit qui était sympathique, voilà que tout d'un coup, la tentation se présente à lui. Et commentant cet événement, il nous dit, mais tu sais, on n'en a jamais fini avec nous-mêmes, on n'en a jamais fini avec la tentation et le péché, jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons à lutter contre cela. Et ce n'est pas les plus âgés parmi nous qui me contrediront, enfin je pense. Donc le premier combat, c'est déjà un combat contre nous-mêmes ou contre le péché. Deuxièmement, c'est un combat qui n'est pas un combat contre, mais c'est un combat pour. Ça c'est l'aspect, je dirais, positif, pour le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, verset 2, nous lirons d'autres passages tout à l'heure, nous dit « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Littéralement en grec, « Soyez métamorphosés ». Et le fait que le texte utilise « métamorphosé », c'est fort. Ça fait penser à une chenille qui deviendra papillon, c'est-à-dire il s'agit d'un miracle, d'un changement complet, total. Et notez que ce changement ou cette métamorphose, hein, soyez donc métamorphosé ou renouvelé dans votre intelligence. Donc le renouvellement passe d'abord par notre intelligence. Toutes les actions que nous posons dans notre vie, tous les choix que nous faisons ou les non-choix que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons ont toutes d'abord été pensées, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes possédé, ou que vous êtes fou, ou alors que vous êtes malade. Ah oui, puisque nous avons la possibilité d'agir sur nous-mêmes, sur notre esprit, de la même manière que nous pouvons contrôler notre corps et décider de bouger le pied ou le petit doigt de pied ou certaines parties de notre corps, notre tête, etc. Nous pouvons aussi influer sur notre être intérieur. Et donc le renouvellement passe d'abord par notre intelligence. Toutes les actions que nous allons poser dans notre vie, tous les choix que nous faisons, quand nous décidons de résister, quand nous décidons d'aller dans telle direction, quand nous décidons de prendre plus de temps avec le Seigneur ou autre chose, ce sont des pensées que nous avions auparavant et nous allons dire maintenant, je vais agir de telle manière. J'agis de cette manière-là parce que je l'ai décidé et je pense que c'est bon pour moi. Et donc, le renouvellement de l'intelligence est quelque chose de très important. Et ça aussi, c'est comme la lutte contre le péché, c'est quelque chose qui s'étale sur la durée, sur toute une vie. C'est au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la fréquentation, je dirais, d'autres chrétiens, c'est au travers de la communion avec le Saint-Esprit que Dieu progressivement renouvelle notre intelligence. Et que les mensonges dans lesquels nous avons cru ou que nous avons pris en chemin, que nous pensions être justes, nous allons les laisser tomber. Que les demi-vérités aussi, ou les demi-vérités, etc., ou les quarts de vérité, ou les dixièmes de vérité, hein, et le reste c'était du mensonge, nous allons laisser progressivement cela. Et nous allons remplacer tout cela par la vérité que Dieu va nous donner pour nous et qu'il va appliquer à notre situation, des choses que nous sommes capables d'intégrer et de recevoir. C'est comme ça que Dieu travaille en nous. Et donc, notre intelligence étant renouvelée, nous comprenons mieux quelle est la volonté, comme nous dit l'apôtre Paul, quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mais ça passe par ce renouvellement. Renouvellement qui est vécu au travers de la fréquentation des Écritures, la fréquentation des frères et des sœurs, et puis aussi la communion avec le Saint-Esprit, et le degré d'ouverture que nous sommes prêts à laisser à Dieu dans notre vie. Et parfois, c'est là la difficulté, C'est que nous ne sommes pas prêts à laisser une grande ouverture dans notre vie à Dieu pour qu'il nous parle et pour qu'il nous change et pour qu'il nous métamorphose. Parce que nous avons peur, parce que nous ne voulons pas, ou parce que nous nous agrippons à des ersatz, à des béquilles tout simplement. Et nous avons tous à lutter contre cela. Moi le premier. Et donc ça c'est un combat aussi. Mais c'est le combat pour le renouvellement. Et c'est au travers du renouvellement de l'intelligence que nous vivons souvent des victoires. Moi, je le remarque. Combien de victoires, il y a parfois des domaines dans nos vies où c'est difficile, où on vit un combat qui est vraiment spirituel. Et puis, ce n'est pas au travers de la prière ou quelqu'un qui va prier pour nous, nous imposer les mains pour chasser quelque chose. Il n'y a rien à chasser à ce moment-là, mais c'est un combat dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre être, dans notre esprit. Et c'est au travers tout d'un coup de la communion avec le Seigneur que Dieu nous permet d'avoir une victoire. De remporter une nouvelle victoire sur quelque chose où on n'arrivait pas dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit déclic que le Seigneur, tout d'un coup, va nous accorder. Et puis ensuite, c'est aussi un combat, et ça c'est un des autres aspects, alors nous allons en parler un petit peu plus ici, mais notez bien que ce n'est absolument pas le seul aspect, c'est aussi un combat parfois contre le monde des ténèbres, ou plutôt contre les esprits ou les démons qui cherchent ou qui peuvent chercher à nous déstabiliser. Mais comme on le verra dans quelques instants, nous ne voulons pas non plus leur donner la part belle, sachant que celui qui est présent avec nous, ce n'est pas l'autre, mais celui qui est présent constamment avec nous, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quels sont les pièges qui nous guettent sur ce chemin? Quels sont les pièges? On lira un passage biblique, on va le lire tout à l'heure. Hein. Quels sont les pièges qui nous guettent? Dans le bouquin que j'ai écrit, il y a deux pièges que je souligne et qui pour moi sont importants. Ah, j'avais quand même mis ici le texte de l'Écriture, alors on va le lire. Allez, on va lire ce passage, c'est un texte qui nous servira de trame pendant ce week-end. À côté de ce passage, il y a bien d'autres textes que je lirai, et il y a aussi des commentaires qui seront faits, mais au fur et à mesure de mes interventions. On ne va pas fonctionner comme dimanche matin, où on étudie plutôt un texte, mais on fonctionne de manière davantage thématique, que ce soit ce soir ou alors demain pendant la journée. À partir du verset 10, donc, on notera au passage que la lettre aux Éphésiens a été écrite par Paul. On notera aussi, ou vous noterez au passage, que Éphésiens, c'était une ville, une grande ville de l'Antiquité. C'est là où se trouvait la Diane des Éphésiens, qui était aussi appelée le temple d'Artémis, qui était une des septièmes, je ne sais pas, ou plus, merveilles du monde de l'Antiquité. Donc, on ne faisait pas les pèlerinages à Lourdes à l'époque, mais... dans le monde antique, on allait faire son pèlerinage à Éphèse et on allait voir ce temple, on allait le visiter, on allait faire des sacrifices. C'était un endroit qui était super connu et il y avait des touristes qui venaient de tout le bassin méditerranéen. Ça, c'est simplement pour vous montrer un petit peu le contexte. C'est aussi là que l'apôtre Paul a annoncé l'évangile et c'est là, rappelez-vous, que ceux qui avaient pratiqué la magie, dans Actes 19:19, il nous est dit que lorsque Paul a prêché, tous ceux qui avaient pratiqué la magie sont venus avec leur livre de magie, c'est-à-dire certainement des vieux grimoires, un grimoire étant un livre de magie avec toutes sortes d'incantations et de recettes dedans. Ils sont venus, ils ont mis tout ça sur la place publique et ils l'ont brûlé. C'est, je crois, un des seuls passages dans le Nouveau Testament où il est question de cela, et c'est justement dans la ville d'Éphèse. Donc c'est pour vous montrer, c'était une ville qui était chargée au niveau spirituel, qui était assez blindée. Il termine sa lettre de la manière suivante. « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Notez cet impératif. Il ne dit pas « Seigneur, revêts-moi de tes armes » comme parfois certains chrétiens prient. Il y a souvent des chrétiens qui prient mal ou qui demandent des choses à Dieu. En réalité, ils ne devraient pas les demander à Dieu. Dieu leur a donné, c'est à eux de les utiliser. C'est comme si vous êtes militaire ou comme si vous êtes, je ne sais pas moi, cuisinier ou pâtissier. Moi, je suis un ancien pâtissier. Voilà, il y a des choses qui m'appartiennent, c'est à moi de les faire. Ou alors... si vous êtes militaire, c'est à vous de prendre les armes quand le moment est venu et de les utiliser. Donc là, c'est la même chose. Il dit, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, nous verrons de qui il s'agit tout à l'heure, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds, non pas les Nike, mais, enfin, voilà, ça vous aidera, mais dans ce contexte-là, ça ne vous aidera pas trop, quoi. À vos pieds, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints, c'est-à-dire tous les croyants. Priez pour moi, dit-il, parce qu'à ce moment-là, il est emprisonné. Lorsque j'ouvre la bouche, que la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Nous reviendrons donc tout à l'heure sur quelques aspects de ce passage, et puis demain également. Alors, quels sont les deux pièges qui nous guettent, qui me guettent, qui vous guettent? Deux écueils qui sont gros comme une maison, mais souvent plus c'est gros et mieux ça marche. Eh oui, c'est un principe qui fonctionne toujours. Le premier écueil ou le premier piège consiste à voir le diable ou une activité diabolique, démoniaque, et son équipe, les démons, partout. Je m'explique. Vous avez des chrétiens qui, derrière tous les problèmes, derrière les traits de caractère, derrière les dysfonctionnements, derrière la maladie, des souffrances, derrière des problèmes, j'ai ma voiture qui ne démarre plus, j'ai un problème pour payer mon loyer ou pour rembourser mon prêt ou pour ceci ou ça, dès qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, dès qu'ils sont contrariés, immédiatement, c'est le diable, ce sont les démons, voilà, il va falloir qu'on prie, il va falloir qu'on les chasse, etc. Ils sont là, ils essayent de mettre la mainmise sur nous. L'Écriture ne nous encourage pas à agir dans ce sens-là. Vous avez des chrétiens qui ont disjoncté, qui ont vraiment pété les plombs. Je me souviens un jour d'un pasteur réformé derrière tous les traits de caractère, derrière quelqu'un qui se mettait en colère, derrière quelqu'un qui était fâché, derrière quelqu'un qui n'agissait pas bien ou qui faisait ressortir son caractère, ou mauvais caractère ou sale caractère, immédiatement il disait « il va falloir que j'aille le voir ou la voir pour prier pour lui ou pour prier pour elle, pour le libérer ou la libérer et chasser ses mauvais esprits. » Ça me fait penser à cette église, je raconte ça dans le livre, en région parisienne. C'est un étudiant que j'avais eu en cours à Nogent-sur-Marne qui m'avait invité dans une église ethnique à Paris. Donc j'étais juste de passage, je devais juste adresser quelques mots à l'église. Dans un contexte africain, ça veut dire parler 10-15 minutes. voilà, donc c'est pas juste dire bonjour, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait du contenu, un petit peu quelque chose. Et pendant le temps de louange, j'étais sur l'estrade et le conducteur de louange, après nous avoir conduits dans un bon moment de louange et d'adoration, tout d'un coup se tourne vers l'assistance et en particulier vers ces messieurs et il leur dit « Maintenant, vous allez prier, vous allez vous tourner vers votre épouse et vous allez chasser tous les esprits là. Cette semaine, vous avez vécu des choses difficiles avec elle ou à la famille ou avec les enfants. Eh bien, c'est parce qu'il y a des liens peut-être qui sont là sur votre femme. Et maintenant, vous allez prendre autorité et vous allez chasser tous ces esprits. » Et les gars, ils sont partis à la chasse, à je ne sais trop quoi, pendant 10, 15, 20 minutes, je ne sais plus. Écoutez, ça finissait plus. J'aurais dû faire preuve d'un petit peu de courage ce jour-là et prendre le micro et dire « on arrête ». On arrête. Pardon ? Oui, prier pour eux. Ouais, je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire là. En tout cas, ces messieurs, ce jour-là, peut-être qu'il y en a l'une ou l'autre qui avait un souci. On ne l'exclut jamais. Mais c'était pas la chose à faire. Peut-être que la chose à faire, c'était de régler les conflits, les problèmes, peut-être demander pardon, se repentir. C'est souvent beaucoup plus facile de mettre la faute sur l'autre, vous le savez. Et c'est notre tendance naturelle, reconnaissons-le. Quand ça va pas, on va toujours trouver des coupables. Si c'est pas le conjoint, ce sont les enfants. Si c'est pas ça, c'est le patron, bien sûr, ou alors mes employés si je suis patron. C'est la faute du pasteur ou la femme du pasteur ou des anciens ou que sais-je. Bref, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Très vite, on est amené à pointer le doigt vers les autres. Et quand on devient chrétien, on a trouvé un adversaire de choix, c'est sa faute à lui, c'est le diable, ce sont les démons, c'est eux qui nous entravent, ou plutôt qui nous mettent des bâtons dans les roues. Je n'exclus pas, c'est tout à fait possible que le diable puisse se servir de nos émotions. Je l'ai entendu à quelques reprises, encore dernièrement, il y a quelques mois de cela, j'ai un pasteur, un collègue pasteur d'une église réformée qui m'a demandé de venir voir un jeune homme de 24 ou 25 ans qui s'est converti il y a quelques mois, qui pensait être converti, mais qui ne l'était pas, et qui a été délivré il y a un an de cela de je ne sais combien de démons, de manière totalement inattendue. Il était venu chez son futur beau-père pour passer un week-end. Il vient de l'île Maurice et donc il est venu chez son futur beau-père et on pensait qu'il était né de nouveau. Et pendant le temps de Pâques, donc pas en 2016 mais en 2015, voilà que après le culte de Pâques, il va se reposer dans une chambre et, dans le presbytère. Et puis ensuite, l'après-midi, il descend et... son beau-père lui demande comment est-ce qu'il va et lui dit écoute, ça va pas, j'étais couché là et pendant que j'étais couché, tout d'un coup il y a quelqu'un qui a mis sa main sur moi, j'étais plaqué sur le lit, j'arrivais plus à bouger et une force spirituelle qui cherchait à m'étouffer. Et le gars, il fait une tête de plus que moi et il a des bras 50 cm et du muscle. J'ai touché pour voir si c'était les muscles. Le mec, Schwarzenegger, impressionnant, culturiste et tout, là, il était collé sur son lit, il ne bougeait plus. Et son futur beau-père, qui est pasteur, qui entend ça, qui dit « Ah, ah !» Il dit « Écoute, mardi soir, avec un frère de l'église qui s'est prié, on va en parler. » Et puis alors qu'il commence à parler avec lui, tout d'un coup, contre toute attente, le gars lui-même, les esprits, les démons commencent à se manifester, quoi. Alors il a dû faire appel à ce frère et pendant 2 heures, ils étaient à genoux en train de prier et de chasser les démons. Et le gars, il était infesté. Et ce gars-là, c'était un gars qui était dans une église évangélique, qui lisait de temps en temps sa Bible, qui parlait toujours du Seigneur, mais qui n'aimait pas trop parler, prononcer le mot de Jésus, ça le dérangeait. Son père, c'est quelqu'un d'hyper violent. Quelqu'un qui ne se maîtrise absolument pas, et son fils, c'est exactement la même chose, il était pris parfois par des accès de colère incontrôlés, et il se demandait, mais d'où est-ce que ça vient? Et chez lui, ça avait vraiment une origine spirituelle, bon, il y avait encore d'autres choses derrière, je ne rentre pas dans les détails. Donc, simplement pour vous dire que voilà, ce n'est pas à exclure, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a des accès de colère incontrôlés, que forcément il y a des esprits qui se cachent derrière. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a été délivré de cela que toutes les personnes qui se mettent en colère ou qui manifestent leur sale caractère ont des problèmes spirituels. Enfin, si, elles ont un problème qui est d'origine spirituelle, je pense, entre autres, et c'est des choses sur lesquelles on travaille et Dieu nous aide aussi tout au long de notre cheminement, mais que forcément il y a derrière cela des esprits ou des démons qui se cachent. On ne l'exclut pas, mais en tout cas, ce n'est pas le discours que vous allez trouver dans l'Écriture. Voilà, c'est ce que nous disions. Selon certains, les démons seraient responsables de notre sale caractère, et je ne dis pas qu'un démon ne peut pas se cacher derrière un trait de caractère. Je vous ai donné un exemple, mais ce n'est pas à partir d'un exemple individuel, personnel, qu'on va établir une règle, absolument pas. On se rappellera que les émotions ne sont pas des esprits. Et si vous prenez Éphésiens 4, versets 26 et 27, eh bien on voit que les émotions ne sont absolument pas des esprits et qu'on ne trouve jamais l'apôtre Paul en train de dire, voilà, chassez la colère, chassez l'animosité, etc. Maintenant, le diable peut se servir d'un problème non résolu pour s'introduire ou alors utiliser des problèmes familiaux ou souvent des liens familiaux, comme c'était le cas de cet homme dont je viens de vous raconter l'exemple. On sait aussi, par exemple, que les gens qui s'entêtent à ne pas pardonner et qui restent tout le temps dans la rancune, dans l'amertume, avec un désir de vengeance, c'est quelque part, ils ont leur propre responsabilité, mais ils ouvrent aussi la porte. Ils ouvrent la porte à celui qui est le calomniateur par excellence. Et par conséquent, ils peuvent se retrouver aussi liés. Je n'ai pas dit forcément avec des esprits, mais en tout cas liés d'un point de vue spirituel. Donc le diable n'est pas responsable de notre sale caractère. Hein. Galates, Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et donc l'apôtre Paul dit, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair ou de la nature humaine. La nature humaine ou la chair chez Paul, c'est quoi ? Ce sont ces choses qui font partie de notre nature humaine et qui n'ont pas encore été sanctifiées, où le Seigneur n'a pas encore fait son œuvre complète en nous, entre autres. Donc ça, c'est le premier piège que je soulignais. Deuxième piège que nous rencontrons et qui est présent dans bien des milieux chrétiens aussi, moi je le constate, ayant l'occasion de voyager dans pas mal d'endroits, ne rien discerner. Vous en avez dans les milieux chrétiens qui sont, on dirait qu'elles sont totalement aveugles. Les gens y voient absolument rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas une compréhension spirituelle des choses. C'est tellement terre à terre qu'on a l'impression qu'on se trouve dans une entreprise ou dans une boîte, j'en sais rien, mais il n'y a pas du tout de compréhension spirituelle, de l'enjeu spirituel en réalité qui est là. Nous sommes dans un combat spirituel. Et si on ne veut pas rentrer dans ce combat, il ne faut pas devenir chrétien. Il faut faire autre chose, quoi. À partir du moment où on est de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, on rentre dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et il y a un conflit sur cette terre, puisque la Bible nous dit, Jean nous dit dans une de ses épîtres, que le monde est sous la puissance du malin. Et l'objectif, c'est que la volonté de Dieu soit faite au ciel, comme dira Jésus, mais aussi sur la terre. Hein ? Et sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas toujours faite. Et si elle n'est pas toujours faite, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant ou parce que Dieu n'est pas assez fort. Mais si elle n'est pas toujours faite, c'est d'une part parce que nous faisons de la résistance, comme papy, et puis d'autre part, parce que nous avons aussi un adversaire qui est là et qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues. Regardez l'Ancien Testament, regardez le livre des Actes des Apôtres. Combien de fois Paul s'est pris des coups, combien de fois Paul a dû lutter, etc. Regardez dans l'Ancien Testament. Combien de temps les promesses que Dieu donne à certains des patriarches et autres mettent du temps à se réaliser? Pourquoi? Parce que les êtres humains vont dans des directions opposées et parce que l'adversaire aussi de manière sournoise, sans qu'il ne soit nommé, est présent et agit également. Donc nous sommes engagés dans une lutte. Une lutte pour faire connaître l'Évangile, une lutte pour que davantage de personnes soient gagnées à Christ, une lutte pour que l'Église se développe, une lutte pour que l'Église grandisse. Et tout ça, ça ne se fait pas sans peine et ça ne se fait pas aussi sans réaliser qu'il y a un enjeu spirituel qui est là. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub qui passe en ce moment à la télévision, là, je ne sais pas encore si elle passe, mais elle passait il y a 15 jours, 3 semaines encore, elle passait, où vous voyez, c'est une pub de la sécurité routière. Vous avez quelqu'un qui va faire un accident et puis vous avez le crash qui est montré au ralenti et derrière il y a une voix off qui commente. Je ne sais plus ce qu'elle dit, voilà, dans quelques secondes, il y a cet accident qui va avoir lieu. Et en ayant lieu cet accident-là, on voit tout d'un coup plein de personnes qui sont tout autour de l'accident. Vous voyez, vous avez déjà vu cette pub, hein? Et toutes ces personnes-là, le père qui ne va jamais réussir à s'en remettre, l'enfant qui ne va pas naître, le conjoint qui va décéder de chagrin, enfin, j'invente quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a des ramifications qui sont là. Il y a plein de ramifications quand un accident arrive, un drame arrive dans une famille, ça ne touche pas simplement le conjoint, ça va toucher les enfants, ça va toucher les oncles, les tantes, ça va toucher l'entourage, ça va toucher le travail, ça va toucher plein de personnes. Et au niveau spirituel, quand quelqu'un se convertit, ça ne touche pas simplement la personne, mais ça touche tout son entourage. Et on ne sait jamais les ramifications qu'il peut y avoir. Parce que nous, on voit juste avec nos lunettes, quoi, si on en a. On voit juste devant nous. On ne voit pas dans le monde spirituel. On ne voit pas dans le passé, on n'y pense généralement plus ou on ne s'en souvient plus forcément. On ne voit pas dans l'avenir et on ne sait pas tout ce qui peut se passer. Mais il y a un enjeu qui est là. Et dans le monde spirituel, eh bien, l'ennemi ne connaît pas forcément le futur, mais il voit tout cet enjeu qui est là. Il voit toutes les ramifications que ça peut avoir. Il voit comment une église qui est implantée dans un endroit, tout d'un coup, va pouvoir avoir un rayonnement extraordinaire et impacter l'endroit où elle se trouve. C'est pour ça que je dis que le combat dans lequel nous sommes engagés est un combat vraiment qui est d'origine spirituelle. Et nous devons vraiment penser à ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction de notre humanité, absolument pas. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Mais souvent, on va s'occuper de notre corps, ce qui est normal. On va s'occuper de notre âme, c'est-à-dire l'âme qui contient la volonté, les émotions et qui contient aussi l'intellectuel, l'intelligence. Hein, mais on ne s'occupe pas toujours assez de notre esprit. Notre esprit, là où siège le Saint-Esprit, notre esprit qui nous met en relation, qui nous permet de nous connecter aussi avec Dieu. Et comme disait quelqu'un, il faut que non seulement notre corps, si on en a besoin, ça c'est une autre question, mais surtout notre âme fasse un régime pour laisser plus de place eh bien, à la présence de Dieu et à l'écoute de Dieu aussi dans notre vie, pour que nous réalisions justement que nous sommes dans un combat spirituel. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de dégainer, ce qui ne veut pas dire qu'on devient des gens, voilà, il y a un combat ici. Là, non, mais qu'on est sensible et qu'on réalise, voilà, qu'il y a des choses qui vont se passer. Au mois de décembre, j'étais invité par un de mes amis avec ma famille pour un camp, comme orateur pour un camp de ski. Et pendant cette semaine-là, il y avait non seulement des gens de son église, il est en train d'implanter une église à Paris, mais dans son église qu'il est en train d'implanter, il y a plus de 70% de personnes qui ne sont pas converties. Parce qu'il a commencé un travail d'implantation et le Seigneur lui envoie beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau et qui cheminent. Et donc dans ce camp, il y avait quelques chrétiens qui étaient là, mais il y avait aussi pas mal de non-chrétiens. Et il y avait aussi un médium qui était présent. Un médium qui était présent, qui est actuellement en train d'être formé à Paris par les plus grands médiums. Et donc toute la semaine, il a assisté à tous mes enseignements. C'était le premier le soir après la journée de ski qui venait pour écouter ce que j'avais à dire et ce que la Bible avait à dire sur le monde spirituel. Et le gars était là, et c'était une semaine qui, physiquement, ça a été difficile pour moi. Il y a des choses vraiment bizarres, je ne rentre pas dans les détails qui se sont passés, à tel point que je me suis dit, mais il y a un enjeu qui est là. Et le Seigneur a eu besoin vraiment de me le rappeler, alors que j'étais en train d'enseigner dessus, vous voyez. Mais je me suis dit, mais ce gars-là, il est reparti avec mon bouquin, il m'a dit, je vais le filer à mes amis médiums. Hein, mais qui sait ce que le Seigneur va faire avec ça? Vous imaginez un gars comme ça qui trouve l'Évangile? Un gars comme ça qui trouve le Seigneur? Ce n'est pas simplement lui qui va se convertir, mais il va commencer à en parler autour de lui. Il y a un enjeu qui est là, énorme, un combat. Et parfois, on comprend aussi pourquoi, quand on témoigne et quand on accompagne des gens spirituels, tout d'un coup, ça remue dans tous les sens. Mais parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. On ne les voit pas encore, mais elles vont se mettre en place progressivement. Elles vont apparaître. Et l'ennemi sait tout ça aussi. Et c'est pour ça que l'Église doit être sur le qui-vive, consciente de ce combat. Alors pourquoi est-ce que nous ne discernons parfois rien? Enfin, je rappelle aussi, avant de poser cette question, qui se cache derrière les divisions, les chrétiens éprouvés? Nous avons notre part de responsabilité, nous ne voulons surtout pas la sous-estimer, mais en même temps, nous voulons aussi être sensibles. Qui dit division, dit aussi diviseur. On doit être sensible, ça ne veut pas dire qu'il est dans la personne. Mais ça veut dire qu'il est là de manière sournoise. Je note que l'Écriture dit aux chrétiens, dans l'Épître de Pierre, résistez au diable. Hein? Résistez. Ce n'est pas dit à des inconvertis, c'est dit à des personnes qui sont dans le royaume de Dieu, où le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et c'est dit non pas à des gens qui vivent dans des addictions, dans la débauche ou que sais-je. Non, c'est dit des enfants de Dieu. Et c'est dit par rapport à l'Église. Alors comment se fait-il que parfois nous n'ayons pas conscience de la réalité de ce monde spirituel? Il y a plusieurs facteurs à cela, je ne vais pas forcément tous les étudier, je vous ai déjà dit il y a quelques mots là, il y a quelques minutes, mais c'est lié aussi, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, à notre vision du monde. Quelle est la vision du monde que nous avons? Vous avez, grosso modo, vous avez deux grandes visions du monde qui existent. Avec bien des nuances et des subtilités, bien entendu. La première vision du monde, c'est ce qu'on appelle la vision du monde afro-antillaise. C'est ce que les ethnologues et sociologues et autres appellent la vision du monde afro-antillaise. Et puis à côté de ça, vous avez la vision du monde occidental. Alors quand je dis afro-antillaise, c'est aussi valable pour les... Pour l'Asie, hein. Ils ont aussi une vision du monde un petit peu qui est semblable. Alors dans la vision du monde afro-antillaise, comment est-ce que ça se passe? Dans la vision du monde afro-antillaise, si par exemple vous êtes chrétien, protestant, évangélique ou même catholique, peu importe, vous allez avoir tout en haut de votre schéma, de votre représentation du monde physique et spirituel, vous avez Dieu. Ensuite, vous aurez Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en dessous vous aurez les anges, en dessous vous aurez le diable, les démons, etc. Et puis en dessous vous avez l'être humain, et avec l'être humain les animaux, la matière, etc. Et quand vous regardez les choses et quand vous les analysez, dans cette manière de concevoir, on a tous une vision du monde, hein, tous. La plupart du temps on n'en a même pas conscience. Mais là où vous le voyez le plus, c'est quand vous déménagez ou quand vous changez de région de France. Vous allez en Alsace, vous avez une certaine vision du monde ou des choses. Vous allez dans le sud de la France, vous aurez une autre vision du monde. Vous allez en Bretagne, ça sera encore différent. Vous allez en Afrique, ça va changer. Vous allez dans les Antilles, ça va changer. Vous allez en Asie, ça va encore une fois changer. Et là, je parle de la vision du monde juste pour les choses pratiques, concrètes de la vie. Donc, dans cette vision du monde afro-antillaise que je viens de vous décrire, vous n'avez pas de séparation entre le domaine spirituel et le domaine matériel. Tout est intrinsèquement lié. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais dans les Antilles, ils m'avaient invité pour une tournée d'évangélisation et puis un séminaire aussi pour des pasteurs. Et après la semaine d'évangélisation et d'enseignement, les responsables m'ont convoqué pour faire le bilan. Ça, c'est un truc typiquement antillais. Et puis pour vous dire s'ils étaient contents et s'il y a des choses sur lesquelles ils n'étaient pas contents. Et ils m'ont juste fait une remarque. Ils m'ont dit, un soir, tu as prêché. Et j'ai dû me lâcher, j'ai dû oublier mes notes. Et tu as dit, oui, tu as posé la question, ah, mais si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ou pourquoi ceci? Et je savais que dans le contexte antillais, il ne fallait pas poser cette question-là. Ils m'ont simplement, gentiment et cordialement rappelé. Et ils m'ont rappelé aussi que c'est le genre de question qui ne se pose pas. Eh oui, dans le contexte entier, africain, on ne se pose pas la question si Dieu est bon, pourquoi le mal? Si un tel a un cancer, ou si un tel n'arrive pas à trouver du boulot, ou si moi je me suis fait licencier, pourquoi, que fait Dieu? Est-ce qu'il est en vacances? Où est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'on fait pour le joindre? Est-ce que j'ai le téléphone rouge ou quoi? C'est une question qui ne se pose pas. Et pourquoi ils ne se posent pas cette question-là? Parce que c'est lié à leur vision du monde. Et pour eux, Dieu est intrinsèquement bon. En Haïti, où j'étais pendant de nombreuses années, en créole haïtien et en créole tout court, pour dire Dieu est bon, on va dire bon Dieu bon. Et quand on dit Dieu, on dit bon Dieu. Parce que par définition, Dieu ne peut être que bon. Même si je perds tout, même si tout va de travers, Dieu restera toujours bon. Voilà, c'est lié à leur vision du monde. Autre chose de plus précis, si par exemple vous tombez malade, vous perdez votre travail, vous avez une difficulté dans un domaine précis de votre vie, ou vous avez un conflit avec votre conjoint, ou un conflit avec vos enfants, ou par exemple vous avez un problème avec votre patron, ou dans l'église il y a des conflits, pour l'afro-antillais, il va tout de suite chercher une signification spirituelle. Nous, on va essayer de chercher une signification pratique, technique, n'est-ce pas? Pour un afro-antillais, si par exemple quelqu'un se noie, je ne sais pas moi, dans le lac de Genève, ou alors se noie, je ne sais pas moi, à la mer, dans un endroit plus clément, ou dans une gravière, ou que sais-je, si par exemple quelqu'un se noie, nous, en tant qu'occidental, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser qu'est-ce qui s'est passé, on va faire des recherches, finalement on va se rendre compte que la personne est décédée parce qu'elle a été victime d'hydrocution. Ou alors parce qu'il y avait un petit courant, un courant froid, comme ça arrive parfois, dans certains lacs, qu'il a pris et il a été aspiré par ce courant, il n'a pas réussi à s'en sortir. Alors que pour l'Afro-Antillais, même s'il a été formé en France et qu'il est bardé de diplômes, la première pensée qui lui viendra à l'esprit, il y a un sens, une signification spirituelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est chrétien, il va se dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire peut-être? Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait bien au niveau spirituel. Je ne suis pas en train de dire que cette vision du monde est bien ou pas bien, je suis en train de vous la décrire. Et s'il y a des problèmes qu'il rencontre, il va dire, mais est-ce qu'un marabout ne m'aurait pas jeté un sort? Est-ce que quelqu'un ne m'aurait pas jeté un sort? Ou quelqu'un ne m'aurait pas maudit? Ou alors, il y a l'ennemi qui cherche à m'attaquer, mais parce qu'il y a peut-être ma voisine du dessous, la dernière fois j'ai vu, elle avait ceci ou elle avait cela. Tout doit avoir une signification spirituelle. Un jour, je lisais justement un article par rapport à ce sujet-là, et je suis tombé sur une histoire qui s'est passée au Cameroun, je ne sais plus exactement les détails, mais cette histoire disait la chose suivante, c'est un jeune qui a été écrasé, un jeune d'une vingtaine d'années, qui a été écrasé en plein Cameroun, à Douala, je crois, par une voiture. Et les policiers sont venus, la mère du jeune est venue, et puis finalement la mère commence à raconter aux policiers que son fils était quelqu'un qui faisait beaucoup de bêtises, et ça n'allait pas bien, etc. Et en discutant, ils en sont arrivés, le chauffeur, le policier et la mère, à dire que finalement, si ce jeune avait été écrasé, c'était pas la faute de celui du chauffeur, mais c'est parce que celui-ci certainement avait fait des choses au niveau spirituel qui n'étaient pas bien, parce que la preuve, c'est parce que tout allait de travers dans sa vie et qu'il faisait n'importe quoi en ce moment, et donc par conséquent, ce sont les esprits qui se sont vengés de cette manière-là, qui ont utilisé le chauffeur pour l'écraser. Résultat des courses, l'histoire est authentique à 200%, j'étais moi-même scotché, rien n'est passé au tribunal, le policier, la mère, la propre mère du gosse, et le chauffeur, bien sûr, qui était tout content, hein, ont décidé que celui-ci n'était pas responsable, mais c'était les esprits. C'est fou. Comment est-ce qu'on en arrive à une chose comme ça? On en arrive, bien sûr, il y a le cœur humain, hein, qui est tortueux par-dessus tout, on ne va pas, absolument pas l'excuser, mais derrière cela, il y a toute une vision du monde aussi qui est là. Une vision du monde qui est totalement différente de la nôtre, et quand vous discutez parfois avec certaines personnes, c'est pour ça que ça ne va pas coller. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison, hein, ou que nous on a tort. La vérité se trouve entre les deux, certainement. Mais une vision où tout est intrinsèquement lié. C'est pour ça que quand un Africain ou un Antillais fera un rêve la nuit, nous généralement on n'accorde pas d'importance aux rêves. On les prend le matin, on se réveille, on les met à la poubelle, c'est terminé. Mais lui, il va être attentif. Pourquoi est-ce qu'ils vont être attentifs? Parce que peut-être qu'il y a un signe, soit c'est une attaque spirituelle, soit Dieu veut me dire quelque chose. Il y a une autre conception qui est là. Alors que pour nous autres occidentaux, eh bien, si nous croyons en Dieu, il va y avoir Dieu en haut, sinon il y aura peut-être une certaine forme de spiritualité. Mais entre le monde spirituel et le monde physique, vous le savez, il y aura toujours une séparation. La preuve, quand vous parlez de votre foi à quelqu'un, il ne va pas vous le dire, mais il vous fera comprendre que c'est du domaine privé. La foi est du domaine privé. Et pourquoi c'est du domaine privé ? Parce qu'il y a cette séparation entre le spirituel et le temporel. C'est pour ça que parfois c'est tellement difficile d'évangéliser aussi. Et c'est pour ça que dans d'autres contextes, il n'y aura aucun problème, parce que dans d'autres contextes, tout est lié. Donc c'est normal qu'on en parle, quelle que soit la spiritualité, hein. Ça peut aller de l'occultisme le plus sombre, à l'ésotérisme, à toutes sortes de croyances et tout ce que vous voulez. Mais chez nous, tout de suite, on va dire, ah ben non, c'est du domaine personnel. Alors ce qui est heureux aujourd'hui, c'est que ça commence à changer dans notre société. Ça commence à changer. La difficulté, c'est que parfois ça va un petit peu dans tous les sens, mais ça commence à changer, en particulier avec les jeunes générations. Les générations plus âgées, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais c'est lié en grande partie à la manière dont les personnes, la vision que nous avons. Et cette vision, elle vient de quoi? Cette vision, elle vient de la manière dont nous avons été formatés. Elle vient de notre éducation que nous avons reçue, elle vient aussi de l'école, hein, qui nous a dit, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne et pas autrement. Et donc tout ça, ça nous façonne De la même manière que si vous faites du sport, vous allez être façonné, vous allez avoir des muscles, vous avez de la résistance, etc. De la même manière, ce qu'on mange d'une manière intellectuelle et ce qu'on reçoit, les messages qui nous sont donnés, nous façonnent aussi et nous construisent. Et on ne s'en défait pas du jour au lendemain. Vous avez donc deux visions différentes du monde qui s'affrontent plus ou moins. Et puis ensuite, comme je le souligne aussi souvent, si nous n'avons pas conscience de la réalité de ce monde spirituel et de l'enjeu qui est là, c'est également par manque de connaissance sur le sujet. Dieu dit dans sa parole, dans le livre du prophète Osée, « Eh bien, mon peuple périt, et il périt non pas parce qu'il n'a pas les locaux adéquats, il périt non pas parce qu'il ne donne pas ses dîmes et ses offrandes ou que sais-je, mais il périt par manque de connaissance. » Si on n'enseigne pas une chose, et si on n'encourage pas les gens à la vivre, et si les gens ne peuvent pas le voir à un moment donné et palper la chose, il n'y aura pas de changement. Si vous ne dites pas aux gens, ou si on ne parle pas de Jésus qui sauve et qui pardonne, personne n'est sauvé, ou très peu de personnes vont être sauvées. Moi, quand j'ai fait mon catéchisme à l'église protestante, j'ai appris des choses très intéressantes, excellentes. Mais le pasteur ne nous a jamais dit qu'on devait se convertir et naître de nouveau. Il ne nous a jamais dit que nous avions un choix à faire. C'est seulement à un moment donné que je l'ai compris. Et c'est vrai dans plein d'autres domaines. Comment faire pour chasser un démon? Comment libérer une personne? Comment est-ce que ça fonctionne? Etc. Autant de questions qui sont là, et qui font que parfois nous sommes coincés. Alors je ne vais pas faire le fier, absolument pas, parce que moi-même, lorsque j'ai commencé mon ministère, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant de cela, la première fois que je me suis retrouvé confronté à quelqu'un qui manifestait des signes démoniaques, apparemment, j'étais perdu. J'étais dans le quartier, nous avions évangélisé pas mal de gens, et puis un jour, je vais voir... par hasard, quelqu'un, je me suis dit, tiens, je vais voir comment cette personne se porte, et je vais là-bas, je frappe, et puis la personne m'ouvre, c'était une dame, et puis je m'assois à table avec elle, son mari était à la cuisine, et cette personne-là, ce jour-là, était totalement absente. C'était une femme qui avait été violée, une femme qui se scarifiait, qui s'était scarifié les deux bras, il n'y avait plus de place, le cou, il n'y avait plus de place, le ventre, il n'y avait plus de place. C'était pratiquement toutes les trois semaines, un mois qu'elle allait à l'hôpital. Enfin bref, c'était quelqu'un qui était dans un état déplorable. Et ce jour-là, lorsque je viens là-bas, je commence à parler avec elle, je me souviendrai toujours, elle me regarde et... c'est pas elle qui me regardait, quelqu'un d'autre à travers elle me regardait. Mais c'était puissant, hein, à tel point que ça m'a fait peur. C'était pas du domaine de la séduction, c'était pas du domaine de l'absence simplement de cette personne-là, c'était quelqu'un qui était là. J'ai fermé les yeux, j'ai tapé mes pieds par terre, je me suis dit « bon, allez, t'es en train de t'imaginer des trucs là ». J'ouvre les yeux, c'était la même chose. À tel point que j'ai pris peur, j'ai même pas discuté avec elle. Et j'ai prié rapidement, les yeux ouverts, et je suis parti en courant. J'ai mis une heure à m'en remettre à la maison. Hein. Ma femme me le rappelait encore l'autre jour, lorsque je parlais justement du sujet. Quoi. Alors aujourd'hui, j'aurais su quoi faire. Mais à ce moment-là, je ne savais pas comment faire. Je savais que les démons existaient, je savais que le diable existait. Je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient être sous influence occulte, mais je ne savais pas qui étaient les démons, je ne savais pas comment est-ce qu'on fait pour discerner si quelqu'un a un esprit ou pas, je ne savais pas comment est-ce qu'on fait pour chasser un esprit, je ne savais pas comment est-ce que ça fonctionne. Et par conséquent, j'étais totalement perdu, et ça m'est arrivé encore l'une ou l'autre fois. Et je remercie le Seigneur qui, au travers de certains ministères, alors bien sûr au travers de certaines lectures, mais surtout au travers de certains ministères et de certaines expériences que j'ai pu vivre, où j'ai pu acquérir certaines choses et découvrir et prendre conscience de la réalité de ce monde spirituel. Et parfois, même ces derniers temps, ça m'est arrivé parfois d'être en contact avec des gens dans des situations où je me dis « mais c'est pas possible ». Au mois de janvier ou février, je ne sais plus, j'étais avec un frère de mon église qui m'a demandé de l'accompagner. Cette fois-ci, c'est lui qui m'a demandé de l'accompagner parce que dans un petit village, un bon petit village alsacien, voilà que il y a une dame qui une amie d'une amie, bref, qui dit que son mari est quelqu'un de très violent et quelqu'un où parfois il y a des voix qui se manifestent au travers de lui. Alors on ne sait pas, est-ce que ça relevait de la schizophrénie, est-ce que ça relève, on en parlera demain, d'une maladie psychiatrique ou autre chose. Puis finalement, on allait visiter, quoi. Et en apprenant que nous venions, le gars a pris peur et est parti de chez lui en colère. Donc finalement, on a juste pu voir son épouse. Et quand elle nous a raconté, cette brave institutrice, comment ça fonctionnait, elle nous a dit, écoutez, on est dans cette maison, dans un petit village alsacien, cette maison, tout le monde l'appelle la maison de la sorcière. Chaque fois que mon mari est dans la maison, et chaque fois qu'il se tient dans la partie cuisine, tout d'un coup, il change du tout au tout. Il devient hyper violent, il a un rictus sur son visage qui ne le quitte pas, et il y a des mimiques qui vont se faire, et il veut tout le temps tuer sa femme à ce moment-là. Il ferme la porte, et il devient violent, et il la menace. Il ne passe jamais à l'acte, mais c'est terrible. Et la dernière fois, me dit-elle, les voisins l'ont vu à travers la fenêtre, et ils ont dit, écoutez, votre mari avait exactement le même rictus que les précédents locataires qui étaient dans cette maison-là. Vous imaginez ? Des trucs de fou, quoi. Hein ? Et dès comme ça, je pourrais vous en raconter à tel point, des fois je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de me raconter du pipeau, quoi, hein? Impressionnant. On priait pour cette dame, on prie pour la maison, parce qu'il y avait des manifestations dedans, et c'est terrible pour cette femme à vivre. Tout d'un coup, il y a la petite fille, ils ont deux enfants, une fille de 12 ans qui arrive, et elle se joint à nous, et on lui dit, écoute, on va prier, on vient de prier, ou on va prier pour la maison, je ne sais plus, et elle voit qu'elle peut nous faire confiance. Elle nous dit, écoutez, monsieur, depuis qu'on est dans cette maison avec mon frère, là, souvent la nuit, on ne dort pas. On voit des personnes qui bougent, qui nous embêtent, comme des formes d'individus qui sont là. Hein, ce que certains vont appeler des fantômes ou autres, j'en sais rien. Mais complètement perturbés par cela, quoi. Donc, il y a une réalité qui est là. Et c'est vrai que c'est en découvrant ça, au fur et à mesure, eh bien, qu'on prend conscience de cela, et puis que le Seigneur nous donne aussi tout ce qu'il faut, et nous verrons cela ensemble demain, pour nous aider et aussi pour nous équiper. Donc ça, c'était le grand premier point que je voulais souligner. Dans un premier temps, je vous ai donné cette petite définition tout à l'heure. Je vous ai essayé de cerner, de cibler ce qu'on entend par combat spirituel. Ensuite, nous avons lu ce passage, et puis maintenant, ces deux pièges ou ces deux écueils qui nous guettent. Est-ce que nous prenons encore quelques instants pour continuer, ou alors est-ce que nous nous arrêtons? On continue? Oui, ok. Ah oui, non, c'est bon. Ça va. Ça peut attendre. Alors, ce que je vous propose là, un deuxième point, maintenant voyons des choses un petit peu plus techniques, sur ce que j'ai appelé le fonctionnement du monde spirituel. Trois révélations que l'apôtre Paul nous fait dans l'épître aux Éphésiens, et où il nous explique un petit peu comment fonctionne le monde spirituel. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe dans ce monde spirituel? La première révélation qu'il nous donne, c'est ce que j'ai appelé trois types de ciel, où il nous montre justement un petit peu comment fonctionne ce monde spirituel. Première chose, par rapport à ce premier sous-point, on voit que l'apôtre Paul situe ce que Alfred Kuhn appelle dans sa transcription du Nouveau Testament le quartier général des forces du mal. Il situe ça dans le ciel. Et effectivement, quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, vous voyez qu'il est question à 6 reprises où vous retrouvez 6 fois le terme « cieux » dans l'épître aux Éphésiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous le trouvez par exemple dans Éphésiens 1, verset 20, Éphésiens 1, verset 20, où il nous est dit que Éphésiens 1, verset 20, « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. » Donc, Christ est assis à sa droite dans les lieux célestes. Ensuite, Éphésiens 6, verset 12, nous parle, si je me souviens bien, des puissances qui sont elles aussi dans les lieux célestes. Hein, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, etc., contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et puis Éphésiens 4, verset 10, aussi nous parle justement des cieux. Alors, en quels termes ? Il nous est dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Donc, encore une fois, le Christ qui est au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, lorsque Éphésiens utilise ce terme de ciel, au pluriel, le terme de cieux ? D'une part, il nous est dit que le Christ est là dans les lieux célestes. Ensuite, il nous est dit aussi que les esprits méchants se trouvent dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une sorte de maison où tout le monde est ensemble et ça circule et ça se croise ? Bonne journée, merci, toi aussi. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. On voit qu'il y a la tradition chrétienne, si vous voulez, de tout temps, a dit ou a proposé ou a expliqué qu'il y avait ce qu'on appelle trois types de cieux. Il y a d'abord tout en haut ce qu'on appelle le troisième ciel. Troisième ciel qui est souvent identifié, ou plutôt qui est identifié comme étant le paradis. Dans 2 Corinthiens 12, verset 2, l'apôtre Paul, après avoir vécu une expérience spirituelle, dira qu'il a été emmené au paradis et que là, il a entendu des choses que personne n'avait jamais entendues. Et je vous fais juste remarquer au passage qu'il n'a pas dites, ou en tout cas, s'il les a dites, il ne les a pas écrites. Voilà. Il a reçu une révélation particulière, certainement sur le fonctionnement plus précis du monde spirituel, mais il ne les a pas données. C'est Dieu qui lui a donné cela, tout simplement. Donc, dans la pensée juive et dans la pensée chrétienne, ce troisième ciel, c'est là où se trouve le Seigneur. Et le Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est le Christ, puisque c'est lui qui est monté et c'est lui parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, parce qu'il est mort sur la croix, désormais il a été fait Seigneur. Et le Seigneur, je vous le rappelle que dans la pensée de l'époque, dans la pensée gréco-romaine, le Seigneur c'était le Kurios, c'est le maître, c'est celui qui est souverain, c'est celui qui a autorité sur toute chose. Il dit une parole, il ouvre la bouche, il lève son bras, immédiatement tout le monde doit se soumettre. Donc le Christ c'est le Seigneur et lui se trouve en haut. Apparemment dans le Nouveau Testament, moi, c'est ce que je pense personnellement, et je ne suis pas le seul, le diable n'aurait pas accès à cet endroit-là, ni les démons. Dans l'Ancien Testament, on le voit, mais l'Ancien Testament, c'est une autre dispensation. Ensuite, à l'opposé du troisième ciel, il y a ce qu'on appelle le premier ciel. Le premier ciel qui, dans la pensée juive, est considéré comme le lieu de la création. C'est-à-dire là où nous vivons, là où nous faisons nos affaires, là où nous aimons, là où nous sommes nés, là où nous mourrons aussi, et nous sommes des terriens. Comme dit Mamadou Karambiri, je ne sais pas si vous connaissez, avec son bon accent africain, nous sommes des terriens, c'est-à-dire nous avons été tirés de la terre. Et effectivement, quand on regarde la composition d'un corps humain, tous les éléments qui nous composent viennent de la terre. Et ce sont des éléments qui sont très simples. Des éléments qui ne coûtent pratiquement rien. Le tout, c'est d'arriver à faire un être humain avec ces éléments-là et d'arriver à faire fonctionner la chose et surtout d'insuffler en lui cette âme vivante. Et Dieu seul est capable de faire ce miracle. Et puis, interposer entre le premier ciel où nous sommes et le troisième ciel où le Christ est présent, il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et c'est Éphésiens 2, chapitre 2, verset 2, qui nous parle du prince qui s'interpose entre ciel et terre. Ça, c'est la traduction de la Tobe. La traduction second 21 n'a pas cela. Elle a Éphésiens 2, verset 2, que je me rappelle. Elle parle de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre. Non, elle parle conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et la traduction Tobe, qui est une traduction un petit peu plus littérale, eh bien, parle de ce prince qui s'interpose entre le ciel et la terre. Et ce prince, nous le savons, c'est celui qui est prince sur la terre actuellement, à savoir le diable, puisque je le disais tout à l'heure, que la terre était sous la puissance du malin. Donc, on ne va pas en faire toute une théologie, mais ça nous permet juste de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et ça nous permet de comprendre aussi pourquoi parfois, dans notre cheminement avec le Seigneur, nous vivons cette opposition et nous ressentons cette opposition. C'est lié d'une part à notre nature, mais c'est lié aussi à cet enjeu, à ce combat spirituel. Nous sommes sur terre, le Seigneur, il est en nous. Il est au-dessus de nous, il est sur nous, il est avec nous, il est derrière, devant, il est partout. Mais en même temps, Dieu est plus grand que nous. Personne ne peut contenir Dieu. Salomon le dira. Ce temple ne peut pas te contenir, les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Il est plus grand que ce qu'il crée, c'est normal. Et en même temps, il est en dehors de nous, il est au-delà de nous, puisque nous soupirons, nous aspirons parfois à sa présence. Et ça nous permet de comprendre aussi pourquoi parfois nous ressentons comme une chape de plomb. Ce n'est pas forcément lié à un péché, ce n'est pas forcément lié à un dysfonctionnement de notre part. Mais ça peut être lié tout simplement, comme nous le verrons demain, lorsque nous parlerons un petit peu des différents endroits où le diable peut agir, ça peut être lié aussi tout simplement au fait que l'ennemi est présent, que l'ennemi est là. Moi j'ai plusieurs amis missionnaires qui m'ont dit qu'en venant par exemple en travailler en France, ils ont ressenti particulièrement au-dessus de Paris comme une chape de plomb. Ils m'ont dit, c'est spirituel. Bien entendu, on ne peut pas bâtir toute une théorie à partir de ça, puisque c'est un ressenti personnel. Mais on peut en tenir compte. J'ai un de mes amis que j'avais rencontré à Nogent-sur-Marne, qui a fait ses études, enfin il venait de Vanuatu, de la République de Vanuatu, et il était venu à Nogent pour faire ses études, et quand il était à Vanuatu, lorsqu'il partait faire de l'évangélisation en brousse, etc., après les cours le vendredi soir, il était jeune converti, il m'a dit, on annonçait l'évangile, et Dieu nous utilisait pour les gens venaient au Seigneur, il nous utilisait, les malades étaient guéris. Des démons étaient chassés. On voyait des choses, là, devant nos yeux, c'était fantastique. Et il m'a dit, quand je suis venu en France, j'ai jamais plus revu ou vécu des choses d'une telle intensité. Il m'a dit, pourtant, j'étais le même Raymond. Je priais pas moins, je priais pas plus qu'avant. Au contraire, je priais encore davantage à l'Institut biblique et il avait plus de temps. Plus de connaissances, il était exactement le même. Il m'a dit, c'est comme s'il y avait une chape spirituelle. Alors, on ne va pas utiliser cela pour nous justifier, hein, parfois d'une certaine inertie ou que sais-je, mais simplement, voilà, il y a une certaine réalité qui est là, qui n'est pas toujours présente, Dieu merci, mais il y a des temps et il y a les moments de Dieu, et on le verra, ça peut être lié à des endroits, et ça peut être lié aussi à toutes sortes de facteurs qui parfois nous échappent. Donc ça, c'est la première remarque que je fais par rapport au fonctionnement du monde spirituel. Alors, de cela, je retiens deux choses. La première chose, c'est que l'opposition que nous vivons est réelle. C'est une opposition qui est vraiment spirituelle. Une opposition aussi, notez-le, je ne vais pas le développer ici, mais une opposition également qui est liée à l'annonce de l'Évangile. C'est surtout quand on annonce l'Évangile et quand on cherche à grandir aussi spirituellement qu'on rencontre parfois de l'opposition. Et c'est normal. Alors Dieu merci, ce n'est pas tout le temps et pas toujours de la même manière. Mais quand on cherche à plaire au Seigneur, je ne parle pas d'être légaliste ou de devenir un petit religieux, absolument pas. Hein. Moi je dis quand on veut rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous, et Dieu a prévu des choses pour chacun de nous et nous les vivons déjà, ces choses-là, il y a une opposition qui peut se manifester, qui peut être plus ou moins intense, surtout à certains moments donnés. Et deuxième chose que je note et qui me paraît très importante, nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. C'est Paul qui dit cela dans son épître aux Éphésiens, dans les chapitres 1 et 2, lorsqu'il rappelle aux Éphésiens et lorsqu'il leur dit « Vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois physiquement nous sommes présents sur terre, mais puisque nous sommes nés de nouveau et puisque nous sommes au Christ, puisqu'il est notre maître, nous sommes désormais avec lui dans les lieux célestes. Et notre esprit est connecté et là, il est là présent avec nous, mais d'un point de vue spirituel, nous sommes avec lui. Et puisque nous sommes avec lui dans les lieux célestes, nous sommes dans ce premier ciel ou dans ce troisième ciel. Et par conséquent, nous sommes au-dessus de ceux qui se trouvent en dessous. Et ceux qui se trouvent en dessous, c'est qui? Ah bien, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont tous ces esprits malins dont nous allons parler dans quelques instants. Nous sommes au-dessus d'eux d'un point de vue spirituel. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est une réalité que nous devons injecter dans notre esprit. Et nous verrons comment concrètement nous pouvons avoir la victoire et toutes les armes que le Seigneur nous donne. Et s'il nous donne tout cela, et si nous pouvons les utiliser et remporter des victoires, c'est justement parce que d'un point de vue spirituel et d'un point de vue théologique, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes avec lui désormais et l'ennemi essaye toujours de nous diminuer et notre propre nature essaye aussi toujours de nous rabaisser et nous nous rabaissons facilement, nous disons mais non, nous sommes rien du tout, nous sommes peu de choses. Oui, nous sommes peu de choses, mais grâce au Christ, nous sommes beaucoup. Eh oui, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes ses amis, c'est pas rien quoi. Nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Deuxième révélation, il est question des habitants, justement, dans ce second ciel. Alors, qui sont ces habitants? On ne va pas les passer tous en revue, mais il y a du monde. Éphésiens 6 nous parle du diable. Le diable, celui qui divise, qui détruit. Le texte nous parle aussi des puissances des ténèbres. Il nous parle du mauvais. Il est question de Satan, littéralement, le Satan, c'est celui qui se met en travers, hein, comme dans le livre de Job. Il vient, le Satan, pour se mettre en travers du chemin. C'est celui qui se met en travers du chemin, celui qui se met en travers des couples, celui qui se met en travers de l'Église, celui qui se met en travers des familles, celui qui se met en travers des frères et des sœurs, celui qui se met en travers des projets que nous initions ou nous pensons que Dieu nous conduit. Il est toujours celui qui vient et qui se met en travers pour embêter, pour empêcher, pour noyauter le truc. Par rapport à son existence et par rapport à son origine, je dirais peu de choses, parce que l'écriture reste très sobre. Je note que l'écriture est d'une grande sobriété sur le fonctionnement de ce monde spirituel en détail. L'apôtre Paul, à mon avis, est celui qui était le plus éclairé sur le fonctionnement du monde spirituel dans le Nouveau Testament. Normal, il a écrit la moitié de celui-ci. Mais voilà, il y a Ésaïe, il y a Ézéchiel qui, peut-être, font référence au diable. Actuellement, les théologiens actuels préfèrent citer plutôt Apocalypse 12, 7 et 9 comme faisant référence à ce qui s'est passé dans l'ordre créationnel, à savoir qu'un jour le diable s'est rebellé et qu'il y a eu un combat dans le ciel et que suite à cela, il a été projeté sur terre, vraisemblablement avec un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa révolte. Maintenant, quand est-ce que ça s'est passé? À quel moment était-ce avant, après la création? Enfin là, vous avez toutes sortes de théories qui existent sur le sujet. On a peu d'éléments d'information. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il existe. Et si on veut savoir s'il existe bel et bien, le mieux, c'est de lire les évangiles. Et vous verrez que dans les évangiles, il est question de lui à plusieurs reprises et que le Christ l'a toujours considéré non pas comme un ennemi fictif, non pas comme une pensée, ou non pas comme un principe, mais comme un véritable être doté de pouvoir qu'il n'a jamais pris à la rigolade. Et du reste, l'apôtre Paul et quelques autres qui ont écrit dans le Nouveau Testament non plus. Donc, il est là, il existe, et nous savons aussi que son pouvoir est qu'il est puissant. À côté de cela, le texte de Éphésiens nous parle d'autre chose. Il est question de pouvoir, de principauté, de force, de hauteur, de trône, de souveraineté, d'autorité. On se croirait dans un film de Star Wars, là. Et dans les évangiles, il est question de démons et d'esprits malins. Donc ça, vous le trouvez dans l'Épître aux Éphésiens, dans Romains 8, 38 aussi, dans Colossiens 1, verset 16. Hein, Romains 8, 38, il est certainement question aussi de ces êtres spirituels, lorsque l'apôtre Paul dira « J'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni ceci, ni cela, ni les puissances, ni les hauteurs. » Qui sont ces puissances? Qui sont ces principautés? Qui sont ces hauteurs? Certains ont pensé qu'il fallait voir derrière ces pouvoirs, ces principautés, ces autorités, des autorités qui étaient des autorités, terrestres, hein, que ce soit des autorités religieuses ou alors des autorités étatiques. Mais beaucoup de théologiens abondent dans le sens et disent que derrière cela, il faut en réalité non pas voir des autorités étatiques ou autres, mais voir en réalité des autorités spirituelles qui sont là. Et que les noms qui leur sont donnés correspondent, on ne sait pas trop, à leur grade, à leur pouvoir, à leur puissance, on n'en sait rien. Mais en réalité, il s'agit d'êtres spirituels. Certains vont vous dire qu'il s'agit d'anciennes gloires déchues. Donc quand on parle d'anciennes gloires déchues, il s'agit en réalité certainement de démons. Hein, Donc d'anges qui, à la base, bien sûr, étaient bons et ont joué un rôle, y compris selon les Juifs dans l'ordre créationnel concernant le monde, etc., et qui avaient un rôle à jouer, mais qui, à cause de leur rébellion, eh bien, sont devenus des anges qu'on appelle des anges déchus. Hein. La majorité des théologiens, qu'ils soient protestants, évangéliques ou catholiques, identifient les démons, les esprits malins, les souverainetés, les forces, les principautés, les hauteurs aux anges déchus. Voilà. Après, vous avez d'autres éléments d'explication aussi, je crois, qui existent, mais la majorité vont dans ce sens-là et j'abonde également dans ce sens. Alors, un petit mot par rapport à ces pouvoirs, ces principautés, ces hauteurs. Vous avez peut-être entendu parler d'esprits territoriaux. Vous avez même plusieurs ouvrages qui ont été écrits, notamment par Ana Mendes et par bien d'autres personnes, sur les esprits territoriaux. Vous en avez même qui ont écrit des cathédrales, enfin qui ont écrit des, pas des cathédrales, mais qui ont écrit des pavés, hein, des gros bouquins. Alors les esprits territoriaux, c'est quoi ? Ces personnes-là vont identifier ces pouvoirs, ces autorités que je viens de citer, et vont vous dire que ces démons sont en réalité ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Et ces esprits territoriaux, ce sont des démons qui seraient présents partout dans notre monde et qui seraient influents à certains endroits. Au-dessus de telle ville, il y aurait tel esprit. Au-dessus de tel pays, ce sont ces esprits qui sont là. Au-dessus de tel village, de ce lieu-dit, il y aurait tel esprit qui est présent. Par conséquent, s'il y a une chape de plomb dont je parlais tout à l'heure, et si certains endroits sont plus difficiles à évangéliser et que parfois on a l'impression que ça ne décolle pas, qu'il y a le brouillard et qu'on ne voit rien du tout, c'est justement à cause de ces esprits territoriaux qui sont là. D'où l'importance de les déloger. Alors comment est-ce qu'on va les déloger ? On va les déloger au travers de la prière, on va les déloger au travers d'un discernement qu'on va opérer et le Saint-Esprit, là, je vous explique ce qu'eux disent, va peut-être nous révéler le nom de tel esprit pour qu'on puisse prier, d'où aussi les fameuses marches de prière. Les fameuses marches de prière, la journée de prière, la marche de prière, c'est la semaine prochaine, je crois, non ? Demain ? La marche pour Jésus, pardon. Il y a marche pour Jésus, là, c'est demain, je crois, ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Je sais parce qu'habituellement j'y vais. Et donc les marches pour Jésus sont nées de là. À l'origine, c'était non seulement pour témoigner de Jésus, mais ces marches pour Jésus, c'était aussi là pour prier un peu dans cet esprit de déloger les puissances et d'affirmer que voilà, le Seigneur est ici. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser ? Moi, je noterai d'abord ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est qu'on peut dire que prier, c'est super, c'est bien. Ensuite, aller peut-être dans des endroits précis et invoquer le nom du Seigneur dans des endroits précis, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Si, par exemple, on loue une salle pour faire un spectacle ou n'importe quoi, la semaine d'avant, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette salle. Peut-être que ça a été une soirée de débauche, quoi. Et que si ça a été une soirée de débauche, c'est un autre esprit qui était présent. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui était là. Ce n'est pas l'Esprit du Christ qui était là. C'était d'autres esprits qui étaient présents. Et donc, par conséquent, nous, quand on vient là, on veut que ce lieu, il soit clean. Pas simplement avec un coup de Javel par terre, mais qu'il soit clean aussi avec un bon coup de Javel au niveau spirituel pour que le nom qu'on veut invoquer, c'est celui du Seigneur. Donc, on ne peut que saluer la prière et saluer le fait qu'on va invoquer le nom du Seigneur dans certains endroits. Maintenant, de là à bâtir toutes sortes de théories, et à ne voir qu'au travers de cela, à mon avis, il y a quand même un petit danger. Dans le sens que dans l'Écriture, on ne voit pas cela. On ne voit pas les apôtres dans le Nouveau Testament en train de faire le tour et d'aller sur tel lieu et de dire, voilà, là on va proclamer la victoire du Seigneur, etc. Absolument pas. Et ceux qui procèdent ainsi, en tout cas dans l'Ancien Testament, ce sont les païens. Ce sont les païens qui pensent qu'en allant sur tel lieu avec Balaam, par exemple, et en proclamant des paroles, certains vont être bénis, d'autres vont être maudits. Donc c'est quelque chose plutôt qu'on retrouve dans le monde païen. Alors je ne dis pas que c'est mal de proclamer le nom du Seigneur quelque part. Au contraire, il faut le faire, moi-même je le fais aussi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention et pas bâtir toute une théorie à partir de choses qu'on peut expérimenter, qui sont davantage de l'ordre de l'expérience personnelle plutôt que des données de l'Écriture. Mais je pense personnellement qu'il y a une réalité spirituelle qui est là. Mais personnellement, je pense aussi qu'il faut être prudent et ne pas perdre son temps avec cela. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié dans ce sens-là que le Seigneur ne va pas nous utiliser ou bénir un endroit et permettre que son Église grandisse, etc. Donc ça, c'était par rapport aux esprits qui se trouvent dans ce monde spirituel. Et puis je termine et je conclue avec la troisième révélation que Paul nous accorde par rapport au fonctionnement de ce monde spirituel. Il s'agit en réalité de l'ordre de mission du quartier général des forces du mal. Et cet ordre de mission est extrêmement simple. Il est de casser, de détruire, d'éradiquer, de tuer, de massacrer, d'étriper, enfin bref, utilisez tous les verbes que vous voulez. Notre ennemi est un tueur. Il vient pour tuer, il vient pour anéantir, il vient pour causer du tort. Il utilise notre propre nature et il en profite pour s'infiltrer aussi. J'ai mon épouse qui est aumônier, qui travaille sur 3 cliniques à Strasbourg, et je ne vous dis pas tous les gens qu'elle rencontre, hein, tous les gens, des situations, bon, elle peut pas, souvent elle ne m'en parle pas beaucoup parce que c'est privé, mais des situations terribles. Des gens qui vivent des suicides, des meurtres, des gens qui vivent des situations d'enfer parfois dans les familles. Et quand vous entendez cela, comment ne pas discerner derrière tout cela l'empreinte de l'autre ? Non pas que les gens sont possédés, non pas qu'il va falloir chasser des démons chez eux, peut-être que c'est le cas, mais le fait qu'il y a des portes qui ont été ouvertes, des portes qui sont grandes ouvertes depuis des générations. Et donc les gens vivent des conséquences non seulement de leur propre faute, mais aussi de l'ennemi qui profite de cette situation pour casser, pour détruire, pour rendre encore plus malheureux ces personnes-là. Et c'est terrible. Et là, vous vous dites que les portes d'entrée sont nombreuses. Il est là vraiment partout, infiltré dans notre monde. Et son objectif, c'est vraiment de tuer et de faire passer les gens à côté de l'essentiel. Et pour cela, il est rusé, puisque Éphésiens 6, verset 11 nous parle d'une poursuite méthodique tendant à nuire. C'est ainsi qu'on peut traduire aussi hein, les ruses du diable. Votre traduction peut être à « soyez prêts, résistez contre les ruses du diable ». Eh bien, littéralement, il est question d'une stratégie. Il y a une stratégie derrière sa manière d'agir. C'est pas un coup d'olvague comme ça. Absolument pas. Et puis vous avez aussi 2 Corinthiens 2, 11, 11, 14, Apocalypse 12, 10, où il est question de l'accusateur des frères et des sœurs également. Elles ne sont pas épargnées, nos sœurs. Et la cible privilégiée de notre ennemi, ce sont les enfants de Dieu. Dans mon livre, je parle aussi des serviteurs de Dieu. Et je le pense parce que je l'ai vu bien des fois. Plusieurs amis avec qui j'ai fait l'Institut biblique à l'époque, il y a un peu plus de 25 ans de cela maintenant, il y en a 2 qui ont divorcé, un qui est parti dans les choux. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui sont toujours dans la foi et qui servent le Seigneur. Mais l'ennemi est là. Et il se déchaîne en particulier sur les enfants de Dieu. Et comme je dis souvent, nous sommes en première ligne. Je ne dis pas ça pour nous effrayer, je ne dis pas ça non plus pour qu'on devienne des petits religieux, hein, et qu'on dise, oh ben moi, ci ou ça, non, absolument pas. Juste pour que nous en ayons conscience, pour que nous ayons conscience de cette réalité spirituelle, à savoir que notre ennemi est présent, il est là, et il fait tout ce qu'il peut pour essayer de nous déstabiliser. Et c'est Matthieu 13, verset 13, hein, qui nous parle justement de cet ennemi qui vient pour semer la zizanie. Hein, livré, littéralement en grec c'est la zizania, hein, livré, et c'est l'ennemi qui vient faire cela. Dans l'église, dans nos vies personnelles aussi, et que sais-je. Donc l'objectif de notre ennemi, Notez-le, je vais conclure avec cela, je n'en dis pas plus pour ce soir, ça fait assez longtemps que je parle, hein. C'est de casser, c'est de détruire, c'est d'anéantir, et il n'y a absolument rien de bon en lui, et dans les démons aussi. Donc ça, on doit toujours l'avoir présent à l'esprit, ne pas être dupe, hein, et aussi veiller à ne pas nous assoupir spirituellement. Et puis savoir aussi reconnaître pour soi-même quand est-ce que les attaques ont lieu. Ça aussi, c'est très important. Parce que la volonté générale de l'ennemi, c'est de casser, c'est de détruire, ok. Mais après, Dieu agit avec nous de manière différente. Dieu nous parle à chacun de manière différente. Moi, je sais comment Dieu me parle. Enfin, je découvre toujours de nouveau comment Dieu me parle. Mais à mon frère là-bas, il parle autrement. À ma sœur ici, il parle autrement. Donc Dieu nous parle différemment et l'ennemi aussi nous attaque différemment. Il utilise parfois certaines de nos fragilités. Il utilise toutes sortes de choses. Et donc on doit être sensible. Moi je sais par exemple que quand j'ai vécu des moments exaltants au niveau spirituel, que ce soit ici en France, en Suisse ou que ce soit ailleurs, eh bien c'est parfois après avoir vécu de moments exaltants au niveau spirituel, où il y a des démons qui sont sortis, où il y a des gens qui se sont convertis, ou d'autres choses qui se sont passées, vraiment où je vois que ça a eu un impact au niveau spirituel, que je dois être vigilant. Être vigilant dans la semaine, voire même dans les 15 prochains jours qui viennent, parce que c'est là que peuvent se manifester des attaques. Quand vous avez l'impression que vous êtes bien, comme si vous aviez franchi un palier, voyez, et vous avez l'impression que vous êtes tout d'un coup là, hein, vous ne vous sentez plus, quoi. Et c'est justement là qu'il faut faire attention. Parce qu'il peut utiliser soit votre propre nature, soit tout d'un coup de manière sournoise, dans un domaine où vous ne l'attendiez absolument pas, tout d'un coup il y a une séduction qui va se présenter à vous personnellement. Et donc nous devons apprendre à reconnaître cela. En même temps, être confiant toujours, parce que celui qui est présent tout le temps avec nous, ce n'est pas l'autre, hein. L'autre, il fuit loin de nous, si nous lui résistons, mais celui qui est tout le temps présent avec nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend la présence du Christ visible, palpable, et la présence aussi de Dieu le Père. Voilà, écoutez, je vais arrêter là pour ce soir. Je vous propose juste de prier. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra prendre quelques minutes peut-être pour des questions. On peut peut-être fonctionner comme ça, hein, ce soir, demain matin et puis demain soir également. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore avec reconnaissance nous tourner vers toi. Te remercier parce que tu nous as arrachés à la puissance des ténèbres. Tu es venu nous chercher. Nous te disons souvent merci pour ce que tu as fait dans notre vie, mais souvent nous ne mesurons pas tout ce que cela représente d'un point de vue spirituel. Nous étions perdus, nous avons peut-être été arrachés d'une famille où il n'y avait pas de foi. Et maintenant, Seigneur, parce que nous sommes dans la foi, il y a toute une génération nouvelle qui sort de nous et qui rentre dans la foi. Seigneur, nous ne réalisons pas tout l'impact que ça va avoir, non seulement pour nous, pour notre génération, mais pour la génération de ceux qui vont suivre. Et nous ne réalisons pas aussi, lorsque nous parlons aux autres de toi, tout l'impact que ça peut avoir d'un point de vue spirituel. Comment non seulement eux peuvent se tourner vers toi, mais comment tous ceux qui sont autour vont aussi pouvoir être impactés. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous ouvres aussi les yeux, comme tu as ouvert les yeux du prophète, sur la réalité de ce monde spirituel. Non seulement sur le fait que l'ennemi est là, mais sur le fait que toi, tu es présent et que tu es plus grand. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, que nous prenions conscience que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes maintenant, que nous sommes pleinement en Christ. Et même si nous sommes dans ce corps et dans ce monde, et que nous sommes là en train de travailler, nous sommes là parfois en train de nous dépatouiller dans nos problèmes, nous sommes avec toi, Seigneur, et c'est là que nous allons aller dans cet endroit. Et nous avons déjà le fait que nous sommes au-dessus, Seigneur, de ces puissances, au-dessus de ces autorités, et que tu nous accordes déjà dès à présent la victoire. Nous voulons réaliser cela, Seigneur, parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons te remercier, Seigneur, aussi, parce que tu nous éclaires sur la réalité de ce monde spirituel. Nous te demandons de nous aider à en faire bon usage pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, pour notre propre famille. Donne-nous du discernement. Je prie que tu nous donnes, Seigneur, du discernement. Je te prie aussi que tu nous donnes de la sensibilité au monde spirituel, afin que nous soyons vraiment sensibles à ce monde spirituel qui nous entoure, et que nous sachions aussi discerner quand c'est l'autre, quand c'est nous, et quand c'est toi qui es là et qui agit ou qui nous conduit dans une direction particulière. Nous te rendons toute la gloire et nous te remercions parce que tu es vivant et parce que tu agis aujourd'hui. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Merci pour votre patience. Je me suis dit j'aurais pu faire une petite pause entre deux. Comme annoncé, je vous propose maintenant d'avoir un petit temps de questions par rapport à ce qu'on a abordé ce soir. Donc si vous avez une question d'abord, peut-être que vous souhaitez aussi avoir une précision, il y a un point que j'ai abordé qui n'était pas clair, ou il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, alors ça peut être par rapport à notre sujet directement, mais ça peut être aussi voilà, par rapport à un sujet, je dirais, un petit peu connexe, qui touche ce sujet-là, vous avez la possibilité de réagir. On en parlera demain. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est vraiment pas évident. Et j'ai participé une fois avec les églises baptistes, ils m'avaient invité à leur pastorale. C'était sur le monde spirituel, et nous étions plusieurs intervenants. Et il y avait aussi le frère de Jacques Buchold, qui est psychiatre à Paris, qui est chrétien et qui a fait une partie sur le fonctionnement un petit peu de notre psychisme, etc. Et finalement, au bout du compte, j'ai découvert qu'il était aussi perdu que nous parfois, quoi. Donc ça m'a un petit peu rassuré. Néanmoins, il y a quand même quelques petites clés qui peuvent nous aider, et ces clés, j'en parlerai demain. Voilà. Alors demain matin, on a rendez-vous à 9h30, c'est ça? Jusqu'à 11h, 11h30. D'accord. Alors je penserai en parler demain matin. Demain matin, je vais continuer un petit peu sur le combat spirituel, là, et puis je vais aborder un autre module que je n'avais pas prévu, mais qu'on va faire, je pense que ça rentre bien dedans, sur comment aider une personne sous influence spirituelle. Et je parlerai aussi des problèmes un peu d'oppression spirituelle chez les chrétiens, et puis également comment discerner entre problèmes psychiques et spirituels. Voilà. Ça sera un truc en plus.
Oui. J'ai un ami qui m'a raconté un témoignage de quelque chose qu'il a vécu, et je voudrais avoir un petit peu ton éclairage là-dessus. C'est que il y a une connaissance à lui qui donc n'est pas chrétienne et a eu des manifestations démoniaques. Et donc c'était connu dans ce cercle d'amis que lui, cette personne-là, cet ami que j'ai, est chrétien. Et lors d'une manifestation assez importante, les amis de cette personne qui est attaquée, entre guillemets, ont dit « il faut appeler Monsieur X ». Et donc, ils l'ont appelé, etc. Et en fait, ils ont réalisé que, sachant qu'il n'était pas chrétien, si on chassait les démons, eh ben, c'est un petit peu comme ce verset qui dit « chassez-en un et puis il y en aura sept autres qui vont revenir ». Et donc, ils ont choisi de lier... de lier les démons et de ne pas les chasser pour ne pas laisser la place vide. Et je voulais avoir un petit peu ton éclairage là-dessus. Est-ce que un cas de figure comme celui-ci, de lier des démons pour ne pas les chasser, pour ne pas laisser cette place vide et que la situation empire, est-ce que c'est quelque chose de judicieux, quelque chose de biblique? Est-ce que...
Ok, j'avais aussi prévu d'en parler demain matin, justement dans cet aspect-là, mais on peut déjà toucher un mot, du coup ça nous aide, ça permet d'avancer un petit peu par rapport à notre sujet. Effectivement, il y a certaines personnes qui préconisent, et moi-même je le fais aussi parfois, dans certains cas, effectivement, ce qu'on préconise, c'est de lier les esprits ou les démons. Alors ça veut dire qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils ont toujours une capacité d'agir, mais en agissant de cette manière-là, la personne sera moins perturbée et moins dérangée que ce qu'elle vit habituellement. Et ça lui permettra d'être tranquille pour un temps ou pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle aille plus loin, elle rencontre le Christ. C'est une manière de procéder. Après, j'en connais d'autres aussi, entre autres le Christ, qui n'agissait pas comme ça. Toutes les personnes qu'il a libérées, ou beaucoup des personnes qu'il a libérées, de qui il a chassé des démons, ne sont pas forcément devenues croyantes. Et donc la place était libérée. Donc pas forcément, hein. Même s'il y a ce texte qui dit que si la maison n'est pas balayée, etc., il y a d'autres démons qui vont venir par la suite. Il y a une autre manière encore, certains ne comprennent pas forcément dans ce sens-là, ce passage-là. Mais si on regarde le Christ, il a chassé les démons, et moi je pense que les personnes sont restées entièrement libres de démons. Et moi ça m'est arrivé de prier pour des gens et de chasser des démons, et les gens sont tranquilles. Et j'aurai plusieurs exemples à vous raconter demain, ou de personnes qui étaient troublées par des vues, par des esprits qui étaient là, etc., et qui ne sont pas forcément nés de nouveau, et qui pourtant sont tranquilles jusqu'à aujourd'hui. C'est de la même manière que le Seigneur peut guérir quelqu'un, et c'est pas parce que la personne a été guérie que forcément elle va se convertir. Souvent elle ne se convertit pas, ou elle se convertit bien plus tard, ou c'est ceux qui sont autour, hein. Moi, je pense que, par contre, ce qui est très important, c'est que on va rien faire pour quelqu'un, et j'en parlerai demain, qui ne veut pas s'en sortir et qui ne cherche pas d'aide et qui n'est pas prête à, ou pas prêt à reconnaître ses fautes, ou qui n'est pas prêt, ou qui va continuer dans ce monde-là, qui délibérément veut continuer. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui voulaient continuer là-dedans, qui voulaient juste être délivrées de certaines conséquences, mais qui voulaient continuer dedans. Donc, je ne vais pas prier dans ce sens-là pour elles. Je ne vais même pas prier pour lier les esprits. Je vais prier dans un sens différent, hein. Mais c'est une question très judicieuse, hein. Et je comprends tout à fait la réaction et, par rapport à ça, quoi, hein. Il faut que la personne soit d'accord, hein, tout à fait. Sauf si vraiment vous avez affaire à quelqu'un qui est totalement, où les esprits se manifestent et qui perd le contrôle d'elle-même. Donc là, on est dans un cas de figure différent. Mais autrement, toujours demander l'autorisation à la personne de prier pour elle. Il faut qu'elle soit en accord, toujours. C'est très important. Comment je vais prier pour quelqu'un, je demande si je lui impose les mains ou non, je vais demander son l'accord à cette personne-là, parce que je pose un acte spirituel qui a trait à son âme et à son esprit, où se trouvent et donc par conséquent, posant un acte spirituel là, où je vais invoquer le nom du Seigneur, il faut que je sois conscient de ce que je fais, mais qu'elle aussi, je lui explique et qu'elle soit en accord avec ce que je vais faire pour ne pas me le reprocher ou dire, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, voilà. Hein. Oui, c'est très important ça. Enfin, ça fait partie de de l'accompagnement pastoral en général. Hein. Autre question ?
C'est vrai que tu en parles, le discernement, c'est capital aussi. Et je me souviens d'une fois où j'avais un ami à Grenoble qui m'avait raconté des choses où là je me suis dit, oh, clairement on est dans un cas de figure qui ressemble à ça. Et j'ai prié, et après j'en ai parlé tout de suite le lendemain, parce que c'était le soir après le groupe de jeunes, j'en ai parlé le lendemain au pasteur de l'église qui m'a dit, Mathieu, attention, ces choses-là, et c'est bien de prier quand on est dans un combat comme ça, de ne pas le faire seul, de le faire avec quelqu'un d'expérimenté, parce qu'il peut y avoir des conséquences. Et du coup, ça m'avait fait un petit peu peur. Et je me suis dit, est-ce que ce genre de choses doit être absolument traité avec quelqu'un qui a une expérience forte, ou même quelqu'un naïvement, entre guillemets, mais qui a une foi solide en Dieu, peut prier, peut-être pas de la bonne manière, parce qu'il n'a pas exactement les bonnes méthodes, mais sans craindre quoi que ce soit en termes de conséquences. Est-ce qu'il peut prier dans un cas de figure si spontanément la situation semble le demander ?
Réponse demain matin. On en parlera demain matin, justement. Vous êtes obligé de revenir. Hein. Autre question, réaction ? À demain. Merci pour votre présence. Je vais peut-être pas mettre les livres, mais ce soir, je vous en parle juste. Je suis venu avec quelques livres sur le sujet. Les autres livres aussi, Medium Astrologue Guérisseur, j'en ai aussi avec moi. Et puis, je vous parlerai aussi d'une formation vidéo que j'ai sortie sur le sujet du combat spirituel. Et je vous parlerai aussi demain d'une nouvelle formation qui sort la semaine prochaine ou la semaine d'après, justement sur l'occultisme, un monde méconnu et secret, où je viens de tourner fait 20 vidéos sur le sujet, dont une partie de ce que je vous parlerai demain matin, qui sortira bientôt. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez me laisser votre mail, je vous enverrai la publicité, et ça sort bientôt. Donc, ce sera justement pour permettre aux chrétiens de revenir dessus, et puis de se former aussi, et de pouvoir être équipés. Hein. C'est, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant, le plus utile. Parce que moi, j'ai souvent des personnes qui font appel à moi. Encore hier, c'est un copain pasteur qui fait appel à moi, etc. Donc, c'est bien, mais moi, je préfère que ce soit les églises locales. Et puis, je vous expliquerai aussi pourquoi je pense que c'est bien demain. Hein. Finalement, il y aura beaucoup de choses demain. Hein.
Juste encore deux, trois petites informations. Donc demain, on se retrouve à 9h30, vous l'avez compris. Pour ceux qui vont venir faire la visite du musée de la Réforme, on vous propose de pique-niquer, tout simplement parce qu'on doit partir aux environs des 13h pour être à 14h au centre-ville de Genève. Donc entre la fin, probablement vers 11h30, et le départ vers 1h, c'est peut-être plus simple de rester pique-niquer ici. Voilà, merci. Bon retour à chacune, à chacun. À demain matin.